bienvenue sur les ondes de Radio Albigès, dans une ambiance de cour de récréation, un fond sonore quelque peu paradoxal puisque l'émission que nous vous proposons porte sur l'instruction en famille et va donner la parole à des parents qui ont précisément choisi de ne pas mettre leurs enfants à l'école, de les tenir à distance des cours de récréation et des salles de classe. Mais c'est bien de l'école dont il va être question dans cette émission pour l'interroger, avec des parents qui en contestent le principe ou le fonctionnement actuel avec le manque de moyens que l'on sait. Elles et ils vont nous expliquer tout cela. Nous les recevons dans les studios de Radio Albigès, deux membres du Nuns Collectif, Marianne et Jalil. Je vais les laisser se présenter.
Bonjour, moi je suis Marianne, je fais partie donc effectivement d'un collectif qui s'est fondé au début de l'été qui s'appelle le Nuns Collectif. Je suis maman de deux enfants, ma plus grande a bientôt 6 ans et est instruite en famille depuis presque le début de sa scolarité. Et mon second a bientôt 3 ans et sera concerné par l'obligation d'instruction à partir de l'année prochaine.
Et je suis Jalil, papa également... instructeur en famille, on va dire, depuis maintenant un an et demi, avec une grande fille qui a fait donc depuis un an et demi l'instruction en famille, après avoir été d'ailleurs à l'école, et une deuxième qui a voulu expérimenter l'entrée au CP l'année dernière, et qui du coup, aujourd'hui, n'a pas le droit d'être instruite en famille comme sa sœur.
Alors qu'elle en avait...
Alors qu'il en a exprimé l'envie, le souhait, le désir clair. Et que nous, on leur avait dit effectivement qu'elles peuvent choisir chaque année d'aller à l'école, d'en sortir et que c'était OK. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir pour dire qu'en fait, on ne conteste pas le principe de l'école.
on va y revenir là-dessus. C'était un peu pour susciter justement vos remarques et préciser votre position. Mais on va revenir sur tout ça.
Ça fonctionne.
Alors, l'instruction en famille concernerait, pour l'année 2021-2022, concernait du moins 71 000 enfants. Les chiffres sont assez difficiles à obtenir. Ce chiffre de 71 000 enfants pour l'année 2021-2022, c'est un chiffre donné par l'Éducation nationale, mais il est désormais plus le même, vous allez nous l'expliquer. En tout cas, en 2021-2022, ce chiffre était en hausse, puisque entre 2020 et 2021, il y aurait eu plus de 9000 élèves qui auraient quitté l'école pour rejoindre l'instruction en famille. La crise sanitaire et surtout la manière dont elle a été gérée dans l'éducation nationale étant sans doute à l'origine de cette hausse. Surtout, l'instruction en famille fait parler d'elle en cette rentrée 2022. On a commencé à l'aborder avec les difficultés que tu as évoquées, Jalil, pour ta plus jeune fille, puisque désormais l'instruction en famille subit les attaques de la loi confortant le respect des principes de la République et de la lutte contre les séparatismes, plus connue sous le nom de loi contre le séparatisme, loi dont l'article 49 restreint l'accès à l'instruction en famille, le soumettant à l'accord désormais des rectorats. Et une loi qui surtout fait que l'instruction n'est plus seulement obligatoire désormais en France, elle est obligatoire à l'école, ce qui est un grand changement, l'instruction en famille devenant un régime dérogatoire, très encadré, soumis à une autorisation. Et c'est cela qui a suscité la création de collectifs par des parents en colère de ne pas pouvoir choisir où leurs enfants allaient être instruits et instruites. Dans le Tarn, des collectifs existaient déjà, et puis est apparu cet été le Nuns Collectif dont vous faites partie. Et je vous propose qu'on retrace un peu la création de ce collectif, que vous nous en expliquiez les activités et les objectifs qu'il se donne.
Alors oui, tu l'as précisé, il y a déjà beaucoup d'associations sur le plan national et sur le plan local qui luttent pour la préservation de la défense de l'instruction en famille, qui existent depuis longtemps, qui sont actifs depuis longtemps. Nous, à la base, au Nuns Collectif, on était, disons, plus un groupe de parents impliqués dans la vie du réseau NUNSCO, comme on dit, du département du Tarn. On était très impliqués, on se connaissait, etc. Après, quand on a vu la tournure que prenaient les événements cet été, enfin même dès le début de l'été, dès les premières réponses aux premières demandes d'autorisation, qu'on a vu que les refus arrivaient de manière massive en particulier dans l'Académie de Toulouse. Évidemment, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester sans rien faire. On a réfléchi à rejoindre éventuellement d'autres assos, d'autres collectifs, et finalement, on a décidé de fonctionner, nous, de mettre nos compétences en commun, de manière, on va dire, collégiale, horizontale, etc., et d'œuvrer aux côtés des autres pour militer pour l'abrogation de cet article 49 de la loi séparatisme. Après, aujourd'hui, on travaille en soutien et en parallèle à toutes les assos existantes, et on va dire qu'au cours de l'été, on a commencé par accompagner du mieux qu'on pouvait toutes les familles qui étaient vraiment dans une tourmente administrative et juridique, avec des refus, puis ensuite des recours aux tribunaux, etc. C'était vraiment une période très compliquée, émotionnellement, etc., pour tout le monde. Jalil peut en témoigner puisqu'il est passé par là. Et ensuite, aujourd'hui, maintenant, malheureusement, toute cette partie-là n'a pas tellement payé. Hein, ça, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et on essaye de continuer à faire émerger ce sujet dans le débat public, notamment par le volet médiatique, mais aussi par la prise de contact avec des politiques. Vraiment, notre travail, c'est une forme de presque de lobbying, on va dire, même si j'aime pas du tout ce mot-là. Mais l'idée, c'est de faire comprendre que l'instruction en famille ne véhicule pas tous les clichés auxquels le grand public peut penser, que ce n'est pas quelque chose qui est contre l'école, qu'au contraire, ça concerne vraiment le bien-être de tous les enfants, qu'ils soient scolarisés ou non. Voilà, c'est un peu notre message.
Jalil, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Non, c'était assez bien dit. Nous, on faisait partie des familles aussi qui, en tout cas pour certaines d'entre nous, étions confiantes. Et on avait confiance dans un gouvernement et dans des députés qui, en tout cas, nous avaient annoncé que, vous inquiétez pas, toutes les familles qui pouvaient le faire continueront à le faire. Et je considère que j'ai eu tort et qu'on a eu tort par rapport à d'autres associations qui se sont lancées plus tôt que nous dès l'annonce de cette loi-là. Et voilà, on voit bien aujourd'hui que clairement l'action qui a été menée par le gouvernement et par l'administration et par l'État ne correspond pas du tout aux engagements qui avaient été pris. Et donc, effectivement, oui, on est là pour combattre ça.
On y reviendra peut-être, mais du coup, c'est quoi actuellement la situation de ta petite fille qui n'a pas l'autorisation de faire l'instruction en famille ?
Alors, la loi a été votée l'été dernier. Le décret est passé là en début d'année 2022. Cette loi-là, elle dit que tous les enfants qui sont déjà en IEF en 2021-2022 et qui ont un contrôle positif, puisque quand on est en IEF, on est contrôlé une fois par an par l'Éducation nationale et une fois tous les deux ans par la mairie. Et donc tous les enfants qui ont eu un contrôle positif en 2021-2022 pouvaient faire une demande d'autorisation de plein droit pour cette année et pour l'année suivante, et donc étaient entre guillemets tranquilles jusqu'en 2024. Mais moi, ma fille, ma petite Nora, elle a souhaité donc faire son entrée, comme je disais tout à l'heure, au CP. Et nous, on l'a dit, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas de phobie, il n'y a pas de difficulté, elle est plutôt en avance, elle s'entend bien avec sa maîtresse s'entend bien avec elle, il n'y a aucun problème. Simplement, là, en février-mars, elle nous a dit, j'aimerais bien l'année prochaine expérimenter l'instruction en famille. Et on a dit, ok, il n'y a pas de problème. Simplement, cette loi étant ainsi faite, tous ceux qui ne rentrent pas dans ce cadre de plein droit doivent faire une demande d'autorisation qui est censée viser à vérifier qu'on a les disponibilités et compétences nécessaires pour instruire nos enfants en famille. Ça veut dire qu'il faut montrer qu'on a le bac, montrer qu'on a une disponibilité en termes de temps et faire un dossier pédagogique qui soit orienté vers l'enfant. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, en tout cas à Toulouse, puisqu'il y a une énorme disparité entre académies, on pourra y revenir, mais en tout cas à Toulouse, tous les les nouveaux arrivants IEF qui ont fait de dossiers pour revenir sur les motifs, mais pour faire ce même motif 4, qui est en gros un libre choix, on va dire, c'est-à-dire c'est les familles qui choisissent de faire l'instruction en famille, c'est pas lié à une contrainte personnelle, tous les dossiers ont été refusés par une académie qui considère qu'il faut faire la démonstration que son enfant ne peut pas aller à l'école pour pouvoir instruire son enfant en famille. Voilà. Ce qui correspond ni à la loi qui a été votée, ni à tous les grands textes, droits de l'homme, convention, constitution, tout ce que vous voulez.
Et donc elle va à l'école ?
la question.
Donc non. Non, parce que nous, ses parents, on a considéré qu'on voulait respecter son choix. On a considéré qu'on était face à un refus qui était illégal, hein, puisqu'on est encore en procédure au tribunal administratif, mais ça prend 18 mois.
Et ça n'est pas suspensif, ça.
Et c'est pas suspensif. On a demandé une suspension cet été. On a un juge qui a dit que c'est pas urgent. En gros, elle a été à l'école, ça lui fera pas de mal. Donc il s'est pas prononcé sur le fond de l'histoire, on va y venir. Mais donc du coup, nous, on considère ce refus comme étant illégal. On le considère comme étant injuste. Non seulement par rapport à sa sœur, mais par rapport à d'autres académies dans lesquelles les résultats sont différents. Enfin, il y a beaucoup de discrimination. On pourra aussi y revenir. Voilà, on considère que c'est une décision qui est arbitraire. Et donc, nous, ce qu'on a expliqué à nos filles, c'est que dans ces cas-là, quand on est face à une loi et à une décision arbitraire, illégale, injuste, illégitime, discriminatoire, il est quasiment de notre devoir, en fait, de ne pas l'accepter. Donc il se trouve que dans mon cas à moi, après dans notre collectif, il y a plein de familles qui réagissent différemment, et c'est là où on parle de non-choix. Il y a des familles qui font le non-choix de partir de France, d'aller exercer leur mode de vie ailleurs, pour une loi qui vise à lutter contre le séparatisme, c'est quand même grave. Il y a des familles qui décident de remettre leurs enfants à l'école, et des familles qui décident de partir en itinérance, de se cacher. Nous, le choix qu'on a fait, c'est de désobéir, publiquement, clairement. Et donc on s'est déclaré lors de la manifestation le 1er septembre en désobéissance civile. Et donc on a expliqué ça à nos filles. Cet été a été riche en instruction civique. Voilà.
On y reviendra hein, sur toutes les situations, parce qu'effectivement, oui. Chaque cas diffère, et vous nous parlerez surtout de vos situations personnelles, même si vous êtes aussi porte-parole de tout un collectif. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on revienne un peu sur le rapport à l'école, et qu'on écoute des petits souvenirs d'école. C'est des extraits issus d'un suite sur le décrochage scolaire, avec des souvenirs d'école de personnes qui sont ensuite rentrées dans l'éducation nationale pour y exercer leur métier.
Un souvenir d'école, j'ai une élève très, très discrète et transparente. J'ai pas aimé l'école.
J'étais un très bon élève, très curieux, très. D'ailleurs, la curiosité, je crois que c'est la base de l'apprentissage. Il faut aller chercher, il faut prendre du plaisir à apprendre. Et très curieux, je me trouvais dans le groupe d'élèves qui étaient à l'aise, qui réussissaient. Et je me retrouvais dans en cours de récréation, où j'étais plutôt proche de ceux qui jouaient avec des jeux qui n'étaient pas chers, donc un ballon, où on construisait des trucs avec des élastiques, on faisait des pitchs, ça s'appelait, je ne me rappelle plus si ça existe encore. Bref. Et donc, j'étais à la fois avec ces enfants d'immigrés, catégorie socio-professionnelle à laquelle moi j'appartenais pour les côtoyer dans d'autres cadres, et j'étais aussi avec ces camarades qui réussissaient, pour lesquels j'étais à la même place par rapport au savoir.
Ça peut peut-être surprendre en tant qu'enseignante, mais je n'ai pas spécialement un souvenir positif de l'école. Parfois, vous êtes dans des classes et systématiquement, chaque année, on vous dit qu'on n'a jamais vu une classe si nulle. Et à force de se l'entendre dire, parce que même si vous changez à l'intérieur d'une classe, c'est-à-dire d'une année à l'autre, vous n'êtes pas toujours avec les mêmes élèves, vous finissez par vous dire je suis nulle. Quoi. De toute façon, je suis toujours dans la classe nulle. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a marquée quand même. Ça, c'est un souvenir qui n'est pas spécialement agréable, mais qui est un souvenir quand même.
Un souvenir. J'avais oublié mes clés, c'était au collège, et je pleurais parce que je savais pas comment j'allais rentrer à la maison, et c'est le CPE qui a appelé ma maman, j'étais au collège, pour lui demander comment faire parce que je me retrouvais à la rue, et donc elle m'a donné les directives, maman au téléphone, ça m'a bien rassurée, et donc j'ai cette image du CPE sauveur qui avait réussi à résoudre mon problème de petite collégienne qui avait oublié ses clés à la maison.
Voilà, quelques souvenirs d'école, des paroles qui blessent et qui laissent des cicatrices, des belles rencontres aussi. Je vais vous laisser réagir peut-être à ces quelques souvenirs d'école, voir ce que ça vous évoque et peut-être vous laisser aussi évoquer des souvenirs d'école que vous pouvez avoir en tant que parents qui, désormais, ont fait le choix, partiel d'ailleurs, enfin, de l'instruction en famille. Enfin, quand je dis partiel, c'est que vous envisagez aussi la possibilité que vos enfants, s'ils le souhaitent ou si elles le souhaitent, aillent à l'école.
Tout à fait. Moi, je trouve ça chouette d'écouter ces souvenirs d'école. On se rend compte aussi que chaque personne, en tant qu'individu, a son propre vécu et que et qu'on retient tous des souvenirs différents qui nous ont marqués de différentes manières. Moi, je me reconnais un peu dans le second témoignage, je crois, qu'on a entendu. J'étais bonne élève à l'école, je viens d'un milieu plutôt favorisé, éduqué, etc. Et j'ai jamais eu de soucis. Voilà, j'étais plutôt première de la classe ou deuxième, enfin ça se passait plutôt bien. J'ai envie de dire que finalement, même pour les gens, en tout cas pour moi, pour les gens pour qui ça se passe bien à l'école, ça génère quand même un certain nombre de névroses dont on prend conscience à l'âge adulte. Typiquement, moi je sais que le fait d'être première de la classe dans un milieu où finalement on est bercé par des systèmes de compétition, etc., ça génère une sorte de peur de l'échec, une sorte de syndrome de premier de la classe ou syndrome de l'imposteur. Enfin, il y a plein de manières d'exprimer ça. Et j'ai tendance à penser que finalement, l'école, on y passe tellement de temps que nécessairement, même quand ça se passe bien, ça modèle une partie de notre personnalité. Et oui, on a tous des névroses plus ou moins ancrés qui viennent de l'école. Donc même si j'ai eu une expérience plutôt positive de l'école, j'ai envie de dire que ça a marqué dans mon histoire personnelle, professionnelle, familiale, etc., cette peur de l'échec, ce besoin de réussir. Et ça a accentué ma perception de tous les systèmes de domination, d'oppression, de compétition du milieu dans lequel on vit. Et ça m'a probablement conduit à réfléchir à autre chose aussi pour mes enfants, je pense.
Jalil, tes réactions et peut-être ta perception de l'école telle que tu l'as vécue quand tu étais élève ?
Ouais, c'est... J'ai pas tellement de cicatrices de l'école. Je trouve ce mot intéressant. J'étais plutôt bon élève, sans être excellent, mais juste ce qu'il fallait, puisque le but c'était principalement apporter des notes suffisantes pour que les parents soient contents. C'est quand même le but premier de l'école. Et ça se passait pas trop mal pour moi, et du coup, j'ai pas tellement de cicatrices. C'est effectivement plutôt l'âge adulte qu'on réalise certaines choses. Bon, y a deux mots que j'ai entendus, ou en tout cas que m'appellent ces différents témoignages. Dans le premier, je crois, ou le deuxième, il y avait la notion de curiosité. Moi, le souvenir que j'ai, assez global, c'est pas forcément une anecdote, mais toutes les matières et tous les sujets dont j'étais curieux, j'étais bon et j'avais rien à faire pour. Je travaillais pas, je m'abreuvais de ce qui m'était montré. Et puis le deuxième mot, c'est le mot de confiance, puisque ces matières-là, c'est des matières où du coup j'ai pris confiance en moi et je me suis toujours trouvé bon. Je pense qu'en fait, avec du recul, pas spécialement, c'est juste que j'étais intéressé. Et inversement, les matières qui, à l'instant T, ne m'intéressaient pas, non seulement j'étais pas bon, puisque pas curieux, parce que j'écoutais pas vraiment, mais je me rends compte avec le temps que du coup, j'ai intégré l'idée que c'est pas ça que ça m'intéressait pas, c'est que j'y étais pas bon. Donc, toute ma scolarité, il y a des matières sur lesquelles j'ai fait complètement le blocus. Donc du coup, je me suis retrouvé à faire des études plutôt scientifiques. Mais du coup, j'ai toujours considéré que j'étais très mauvais en art. J'ai toujours considéré que la littérature, rédiger un texte correctement, c'est pas mon truc. Et donc, moi, ce que je retiens, voilà, avec le regard a posteriori, c'est ça. C'est presque le regret, si on veut avancer sur la question de l'école et de ce qu'elle est, ce qu'elle pourrait être. C'est que je crois que si on avance par le biais de la curiosité, qu'on la développe et qu'on développe par elle la confiance... Je crois que c'est là que ça marche le mieux, ouais.
Alors, les lois de Jean-Michel Blanquer sont des lois de l'école pour la confiance, hein, mais... mais il a quand même, il avait la particularité de pouvoir utiliser les mots et les déformer du sens qui sont le leur. Je voudrais peut-être qu'on revienne sur la manière dont on est amené à faire de l'instruction en famille. On en a un peu parlé puisque tu nous as décrit, Jalil, le parcours de ta plus jeune fille et comment ça s'est passé pour elle. Et on a pu comprendre un peu
comment, à un moment, des parents font le choix de ne pas mettre leurs enfants à l'école, choix qui est celui des enfants, dans le cas de ta fille, du moins, Jalil. Peut-être petite question en relation avec ce que vous venez de dire suite à ces souvenirs d'école. Est-ce que votre expérience à l'école a pu avoir de l'influence, si vous essayez de l'analyser dans ce choix de l'instruction en famille? Et concrètement, comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour vous? Parce qu'effectivement, chaque cas est un peu particulier. Que de décider qu'un jour on ne va plus à l'école et qu'on va faire l'instruction à famille, puis on reviendra peut-être un peu sur ce que ça suppose pour les familles qui font ce choix-là, parce qu'il faut quand même s'organiser pour rendre possible cette instruction en famille.
Bah, peut-être moi je peux rebondir sur ce que je disais juste avant. Moi, l'élément principal, c'était quand même, encore une fois, d'avoir des bonnes notes et de faire plaisir aux parents. Et du coup, on était tranquille. Un des premiers trucs que j'ai réalisé adulte, c'est ce sentiment d'être passé à côté de certains savoirs. De dire, ah, c'est dommage, j'écoutais pas l'histoire, en fait c'est passionnant. J'écoutais pas en géo, en fait c'est passionnant. Moi, le premier truc que j'ai développé juste avant d'être père, c'était tout de suite de me dire, alors mes enfants iront à l'école publique, laïque, républicaine, mixité sociale, etc. J'étais très très loin au départ d'imaginer ne serait-ce qu'une école alternative. Par contre, dès le départ, je me suis toujours dit que mes enfants, je voudrais qu'ils soient qu'ils aillent à l'école pour eux. Et donc, moi, je me suis toujours dit, les notes, je leur dirais, c'est pas le problème, ça sert à rien, on s'en fout, en fait. Toi, t'as appris quoi aujourd'hui? Donc moi, je dirais, c'est peut-être la première graine perso qui a... si on veut vraiment faire la relation entre mon expérience à l'école et l'instruction en famille, il y a juste cet élément-là un petit peu préexistant. Pour le reste, c'est tout, en fait, parce que mon expérience de l'école était plutôt positive, j'y passais du bon moment, et donc voilà, moi j'étais dans une approche, encore une fois, mixité sociale, etc. Donc c'est qu'une fois que l'école s'est un peu moins bien passée en maternelle pour ma grande fille, que du coup on a exploré la voie de l'école alternative, et déjà à l'époque ça nous a coûté, hein, parce qu'on avait bien compris qu'en faisant ce choix-là, on gagnait en pédagogie, mais on perdait en mixité sociale, etc. Mais bon, on avait fait ce choix-là à ce moment-là, et c'est bien plus tard... pendant le confinement, qui a impacté beaucoup de gens, positivement ou négativement, que pour le dire rapidement, on s'est rendu compte qu'on était bien, tous les quatre. Non pas parce qu'on était seuls, c'était pas la partie la plus intéressante, mais parce que déjà on prenait le temps. On n'était plus dans la course du matin de 7 à 8, la course du soir de 16 à 19, parce qu'on appréciait de pouvoir découvrir ensemble. Parce qu'on a pu ralentir aussi avec les filles qui ont enlevé aussi un petit peu de pression qu'elles avaient malgré tout, de leur dire, mais en fait, fais ce qui t'intéresse au moment où ça t'intéresse et prends ton temps et fais-le pour toi surtout. C'est là qu'on retrouve le reste que j'avais, quoi. Donc moi, c'est vraiment la découverte de ce moment ensemble qui nous a donné envie de prolonger ça et de dire, mais vous savez, on peut continuer comme ça, ça fonctionne. Et puis du coup, on s'est intéressé et on a creusé le sujet. Il est vraiment arrivé, par ailleurs.
La question beaucoup de l'évaluation à l'école et des rythmes qu'elle impose, qui peuvent à un moment conduire à s'en détacher pour expérimenter autre chose.
Oui.
Marianne, peut-être
Oui, bah, je me reconnais évidemment un peu dans ce que dit Jalil. Après, je dirais que nous, l'instruction en famille, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un projet de vie, véritablement. C'est-à-dire qu'avec mon conjoint, on a aussi revu notre manière d'être, quoi, de vivre, de consommer, d'habiter, etc. Et finalement, l'instruction hors école, ça fait partie aussi de ces options, de laisser la possibilité à nos enfants de s'émanciper véritablement, de trouver leur chemin, qui n'est pas forcément un chemin tout tracé par la société, mais un chemin qui correspond d'abord à eux-mêmes et aussi au monde tel qu'il évolue, quoi. Donc c'est un projet... Ouais, c'est un projet qui s'inscrit dans une démarche globale où on a revu notre rapport au travail salarié, on a changé de métier, on a revu notre rapport au temps, etc. pour justement être disponible pour ça, pour nos enfants. Pratiquer l'instruction en famille, c'est aussi respecter autant que faire se peut et aussi longtemps que possible leur propre rythme, leurs propres besoins et leur manière d'apprendre. Et ça rejoint ce que disait Jalil tout à l'heure, c'est la curiosité et la volonté propre qui guident les apprentissages. Nous, on pratique typiquement ce qu'on appelle le unschooling, c'est-à-dire les apprentissages autonomes. Notre fille de 6 ans, elle a appris de presque 6 ans, elle est en train là d'apprendre à lire. Dans une semaine, c'est réglé parce qu'elle l'a décidé. Il y a un mois, elle avait décidé qu'elle saurait compter jusqu'à 100. En une semaine, c'est réglé parce qu'en gros, on considère que les enfants apprennent par eux-mêmes et pour eux-mêmes quand c'est le moment et quand ils en éprouvent le besoin et l'envie. Et c'est super intéressant, c'est une énorme déconstruction pour moi, qui était une bonne élève, qui suis toujours très scolaire et tout ça. C'est une grosse déconstruction de ne plus pousser ses enfants et les accompagner et attendre des choses d'eux. Mais c'est une découverte tellement géniale de voir les apprentissages se faire pour eux-mêmes, d'être juste là pour les accompagner, qu'aujourd'hui, oui, ce choix, il est conforté. Et je pense que ça va dans le sens de notre projet global de construction d'individus un peu plus libres.
On y reviendra peut-être, mais du coup, ça demande aussi beaucoup d'attention aux enfants et au moment où ils expriment le besoin d'apprendre quelque chose. Et donc, beaucoup de disponibilité pour les parents.
Complètement. Je pense qu'effectivement, il faut pas se leurrer. C'est probablement plus simple et pas possible pour tout le monde, d'ailleurs, d'assurer l'instruction en famille. Il faut avoir du temps, il faut aussi avoir de la patience, de l'énergie. Il faut apprendre à être à l'écoute. C'est pas toujours évident, hein, puisqu'on a tous nos attentes, tous nos besoins. Voilà, donc on apprend, nous aussi, en même temps que nos enfants, à fonctionner tous ensemble. Oui, ça nécessite un gros investissement, clairement. Mais au final, je pense que plus ils avancent en âge et plus le rythme se prend aussi. Moi, ils sont jeunes, donc c'est encore compliqué. C'est chouette, mais c'est compliqué quand même.
On ne l'a pas précisé d'ailleurs, mais l'instruction en famille, ça concerne pour l'essentiel des enfants qui seraient au niveau de l'école primaire.
Oui, il y a une enquête. Il y a une association nationale qui s'appelle Félicia qui a fait une grande enquête auprès des familles en IEF. Donc il y a, je crois, plus de 3000 familles qui ont répondu. Et on se rend compte que la majorité des enfants, effectivement, sont en primaire. Et qu'arrivés au lycée, 98% des enfants en instruction en famille retournent finalement en établissement scolaire. Donc c'est encore une preuve qu'il n'y a pas de choix anti-école. C'est vraiment, il y a une grande perméabilité qui existe, ou du moins qui existait, qui a été gommée aujourd'hui avec cette nouvelle loi. Mais oui, il y a beaucoup d'enfants qui retournent à l'école en grandissant, ouais, et qui s'en sortent très bien d'ailleurs.
Jalil, tu voulais...
C'est là où juste on peut peut-être réaffirmer que, en tout cas pour nous, l'école publique est un service public. C'est pas un devoir. Donc ça permet à toutes les familles qui... Par construction ou simplement pour des raisons pratiques, contextuelles ou que sais-je, de pouvoir dire je confie l'instruction de mon enfant à l'école publique. C'est un service public et c'est très bien les services publics. Je suis à fond pour les services publics. L'idée, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser un service public.
Et c'était le cas jusque-là, parce que l'instruction était obligatoire, mais sans préciser que cette obligation se faisait à l'école. Ce n'est plus le cas depuis l'article 49 de cette loi séparatisme. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on écoute Another Brick in the Hall, une réplique de Pink Floyd par des élèves d'une académie de musique et de danse d'une commune de l'Ain.
We don't need no education. Thank you.
Nicolas, c'était Another Brick in the Hall, une reprise de Pink Floyd par des enfants guitaristes et chanteurs, chanteuses d'une commune de l'Ain, d'une commune qui s'appelle Miribel. Nous sommes sur les ondes de Radio Albi-Jazz 95.4 ou 104.2 et je suis en présence de Marianne et Jalil, membres du Nonce Collectif, un collectif qui défend l'instruction en famille. Marianne et Jalil sont eux-mêmes parents d'enfants qui ont fait le choix de ne pas être instruits à l'école, mais en famille. Choix qui connaît aujourd'hui des complications, nous l'avons évoqué dans la première partie de cette émission, complications dues à l'article 49 de la loi séparatisme. Et je voudrais, Marianne et Jalil, qu'on revienne un peu avec vous sur le contenu exact de cette loi, ce qu'elle change par rapport à la situation que vous connaissiez auparavant.
Alors avant, jusqu'à cette rentrée-là, l'instruction en famille reposait sur un régime dit de déclaratif. En gros, on pouvait déclarer n'importe quand dans l'année que nous passions nos enfants en instruction en famille. Il fallait envoyer un courrier recommandé au service de l'académie et à la mairie de notre lieu de résidence. Ça donnait lieu, on n'était pas pour autant lâchés dans la nature à partir du moment où on déclarait, puisque ça donnait lieu à un contrôle chaque année de l'inspection académique, un contrôle à la fois des parents et des enfants pour vérifier qu'une instruction est bien donnée et qu'elle va vers l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences de l'éducation nationale. Donc c'est quand même, ça mérite d'être dit, c'est le seul système où les instructeurs sont contrôlés chaque année.
Ce qui n'est pas le cas à l'école.
Voilà. Et en cas de contrôle négatif, il pouvait y avoir un second contrôle qui était proposé, enfin qui était effectué. Et si ce second contrôle se passait mal également, qu'il n'y avait pas d'instruction, etc., il pouvait y avoir une injonction de rescolarisation.
Il faut peut-être préciser que dans les chiffres qui sont donnés, 98% voilà. Des inspections se passaient bien.
C'est exactement ce à quoi j'allais arriver. C'est-à-dire qu'effectivement, les rapports de la DGESCO, c'est-à-dire du ministère de l'Éducation nationale, montrent que 98% des premiers contrôles se passent sans problème, que les familles qui posent problème, entre guillemets, ça représente 0,12%. Et c'est pas pour des questions de radicalisme ou de séparatisme, comme pourrait le laisser entendre la loi dans laquelle on s'inscrit. Donc ça, c'était avant. Et aujourd'hui, donc depuis cette rentrée 2022, depuis le mois d'avril dernier, puisque c'est la période est importante, nous sommes passés sous un régime dit d'autorisation. Donc on ne peut plus passer en instruction en famille quand on veut, il faut demander l'autorisation et pas n'importe quand, entre avril et mai de l'année précédant l'année scolaire dans laquelle on veut s'inscrire.
Demande qui se fait auprès du rectorat.
Demande qui se fait auprès de la direction départementale de l'éducation nationale, donc la DESEN, qui ensuite évidemment est traitée par le rectorat. Il faut s'inscrire maintenant pour obtenir l'autorisation dans 4 motifs. Le premier motif, c'est des motifs de médicaux. Le second motif, c'est pratique artistique ou sportive de haut niveau. Le troisième motif, c'est l'itinérance ou l'éloignement géographique d'un établissement, sachant qu'il n'y a pas de chiffre donné, hein, éloignement géographique, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et le motif 4, qui a particulièrement posé problème, il s'intitule « Situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ». Si vous arrivez à me dire ce que ça veut dire, ça m'intéresse. Donc voilà, c'est un motif très flou, on pourra parler de comment tout ça a été appliqué. Mais en gros, déjà, voilà, il faut maintenant demander l'autorisation et en cours d'année, sortir un enfant de l'école, par exemple pour des problématiques de violence ou de harcèlement. On sait qu'il y a à peu près 720 000 enfants harcelés par an en France, c'est les chiffres du gouvernement. Auparavant, on pouvait sortir son enfant, le déclarer en instruction en famille, le temps qu'il se répare d'une certaine manière, pour quelques semaines, quelques mois, quelques années. Aujourd'hui, pour sortir son enfant de l'école, il faut que le chef d'établissement atteste que la sécurité physique ou morale de l'enfant n'est pas assurée dans son propre établissement. J'ose espérer qu'un certain nombre de chefs d'établissement joueront le jeu, mais on peut imaginer que ce ne sera pas le cas forcément à tous les coups. Donc ça devient extrêmement compliqué aussi pour ces enfants pour lesquels l'instruction en famille était une vraie planche de salut par moment. Voilà. Donc si on veut résumer, on va dire que ça change tout. Le recteur devient titulaire de l'autorité parentale en matière d'instruction. C'est lui qui décide, toi tu peux, toi tu peux pas, toi tu peux, toi tu peux pas. Et puis en plus, par-dessus le marché, on s'est rendu compte cet été que tout ça avait été appliqué de manière complètement aberrante et injuste.
Donc, on l'évoquait tout à l'heure, Jalil, tu parlais des disparités entre les académies, et avec une académie de Toulouse qui est particulièrement réfractaire à l'instruction en famille, qui oppose beaucoup de refus. Quand le rectorat formule un refus, comment il est notifié? Il y a une justification, parce que vous faites un gros dossier en fait pour justifier justement ce parcours propre à l'enfant qui rentre dans le motif 4, et les notifications du rectorat, qu'est-ce qu'elles contiennent pour motiver le refus qu'on vous oppose?
Alors déjà, effectivement, on fait un dossier en avril-mai qui contient un certain nombre de justificatifs et qui contient un dossier pédagogique. Voilà. Autour de moi, je vois des familles qui font des dossiers, des gros dossiers. Je pense que dans la moyenne, nous, en ayant fait un dossier de 30 pages qui explique comment on va s'y prendre pour instruire notre fille. Le refus que nous avons reçu le 23 juin, il n'y a pas des lignes de justification, et encore je tiens compte des nous avons bien pris connaissance, voilà. Ça c'est le premier point, et deuxième point c'est que donc c'est la direction départementale qui nous répond et qui nous dit vous n'avez pas démontré de situation caractérisée, c'est pas ce que dit la loi. Et le législateur avait précisé en plus qu'il fallait une situation propre à l'enfant et que tout enfant était particulier. Donc, voilà. Le dossier d'ailleurs ne demande pas de justifier une situation propre. Donc, quels sont les justificatifs? Quelles sont les raisons? On ne sait pas. Toujours est-il qu'on a donc une direction départementale qui nous dit: mais vous ne justifiez pas une situation propre, votre fille a déjà été à l'école, donc elle peut continuer à y aller. Point. Donc, on se dit: bon, c'est normal. C'est une nouvelle loi, ils n'ont pas bien compris, ils ont été un peu vite, ils ont été débordés aussi par le nombre de demandes. On va faire un recours. Donc on fait un recours qui cette fois-ci est transmis directement au rectorat. C'est plus le départemental, c'est au niveau de l'académie que ça se gère. Qui est censé réunir une commission, et cette commission est censée étudier. Donc moi j'ai pareil, on a fait un recours de 11 pages. On a bien paluché hein, la loi cet été, puisque je reprends les articles de loi, les déclarations du législateur, je reprends un certain nombre de principes à la fois de droit, mais aussi des éléments de contexte concernant notre famille. Et donc, pendant 11 pages, je démontre en quoi leur décision est injustifiée. Et là, on reçoit une réponse de l'académie. Je vais compter, du coup, parce que là, ça va assez vite, c'est 4 lignes. Voilà. Une scolarisation à l'école n'apparaît pas incompatible avec vos principes éducatifs et votre démarche pédagogique complémentaire à celle que propose l'éducation nationale. La scolarisation à l'école, qu'elle a déjà expérimentée cette année de façon positive, permettra de répondre aux besoins physiologiques, affectifs et cognitifs de Nora et d'acquérir progressivement les connaissances et compétences attendues. Mais en fait, on est complètement hors sujet. On a un législateur qui nous a dit: mais de toute façon, ce qui est important, c'est que chaque famille puisse continuer à le faire. Si les familles choisissent ce mode d'instruction, c'est bien pour leur enfant. La vérification des compétences sera réduite au strict minimum. Et puis tout ça pour, en fait, je rappelle, dans le cadre d'une loi qui vise à lutter contre le séparatisme. Ce qui est intéressant, c'est que le rectorat ne nous dit pas: là, il y a un risque séparatiste chez vous. Il ne nous dit pas: votre projet n'est pas bon. Il ne nous dit pas: vous n'avez pas les disponibilités nécessaires. Il nous dit: votre enfant pourrait aller à l'école, donc il faut qu'elle y aille. Donc on est sur de l'obligation scolaire cachée, puisque jamais annoncée par le législateur, au contraire. Et puis on est même, je dirais, face à de la violence administrative. 30 pages, 10 lignes, 11 pages, 4 lignes. Attendez, répondez au moins à mes arguments.
Et du coup, il y a pu y avoir alors, il y a eu des manifestations, hein, vous l'avez évoqué, le jour de la rentrée, le 1er septembre. Vous êtes mobilisé, vous avez refait une mobilisation le 15 septembre devant le rectorat. Il y a pu y avoir des rencontres avec les agents administratifs, inspectrices d'académie dans le Tarn, recteur de l'académie de Toulouse qui vous oppose ces refus?
Alors nous, directement, en ce collectif, on n'a pas encore eu de rendez-vous. On a en revanche un rendez-vous le 5 octobre avec la... Oui, la DAZEN du Tarn, et il y a un groupe de, enfin plus une délégation représentant des associations et pas des collectifs de l'Académie de Toulouse qui ont été reçus récemment par le recteur, monsieur Fourard.
Non, pas par le recteur justement.
Non, par les équipes, oui, effectivement, c'est par le recteur lui-même. Oui, t'as raison, par les
chefs de cabinet.
Voilà, c'est ça, les équipes du recteur.
Qui se sont contentés justement de dire: mais en fait, nous, on applique la loi et puis c'est tout.
Voilà.
Et si vous avez des questions, on les remontera. Donc c'était pratique parce que du coup, on n'était pas face à des décideurs qui se sont contentés de dire: bah, nous, on ne peut rien faire pour vous. Les questions, bon, bah, on va les remonter. Voilà.
Après, on sait aussi qu'il y a eu des consignes qui sont venues du ministère dans tous les rectorats de France pour justement donner des consignes et pas des directives de fermeté, notamment vis-à-vis de ce motif 4. Et clairement, les sorties dans la presse, notamment du recteur M. Fourard de l'Académie de Toulouse, indique que finalement, quand la scolarité est possible, ça rejoint ce que disait Jalil, quand la scolarité est possible, elle doit être obligatoire. C'est une interprétation ferme de la loi qui ne correspond pas du tout à ce que tout le monde nous a dit la main sur le cœur quand on nous expliquait que cette loi ne s'adresse pas à ceux qui font bien et que ceux-là pourront bien évidemment continuer. Donc voilà, le dialogue avec le rectorat pour l'instant, il est assez... il manque un peu d'intérêt. Les sorties dans la presse sont assez révélatrices de leur interprétation, des consignes qu'ils ont reçues. On a l'intention de faire changer les choses parce qu'en fait c'est juste à la fois il n'y a aucun argumentaire et à la fois c'est totalement liberticide. Il n'y a aucune raison valable d'interdire l'instruction en famille ou de la transformer en exception à partir du moment où on représente une population qui ne pose aucun problème, et c'est le ministère lui-même qui le dit qu'on ne pose pas de problème.
Vas-y, Jay.
Non, mais juste, c'est pas beaucoup mieux pour l'instant, malheureusement, ça serait pas beaucoup mieux d'un point de vue de l'éducation nationale, puisqu'on a, donc on attendait de voir comment est-ce que Papendiaï allait reprendre ce sujet. Je vous cache pas qu'on est déçus.
Alors, cette loi, elle est, on l'appelle loi séparatiste, mais en fait, le motif véritable, c'est quand même une lutte contre la radicalisation islamiste. Vous êtes du coup englobé dedans. Mais pour mieux la faire passer, on a appelé ça confortant les principes de la République. Alors, l'un des reproches adressés souvent à l'instruction en famille, y compris dans des milieux militants de gauche, c'est que c'est aussi un privilège d'une certaines catégories sociales, que l'instruction en famille, c'est aussi une mise en cause de l'école de la République. Alors, comment vous répondez à ces arguments? Est-ce que l'instruction en famille, elle est accessible à tous et à toutes? Y a-t-il une sociologie des familles pratiquant l'IEF? Et vous avez souligné que vous n'étiez pas opposé à l'école et à l'école publique notamment. Comment vous arrivez à croiser votre combat avec les luttes menées par des parents qui s'opposent à une fermeture de classe dans certains villages, des enseignants et des enseignantes, ou des AESH, des AED qui se battent pour leurs conditions de travail?
Alors, c'est une vaste question, il y en a plusieurs, je vais essayer déjà de répondre à la première. Y a-t-il une sociologie des familles qui pratiquent l'IEF? C'est pas facile d'avoir des chiffres, etc. Mais j'ai parlé tout à l'heure de l'association Félicia qui a mené une grande enquête. Et effectivement, il y a quand même une certaine typologie de famille qui ressort. Et contrairement aux idées reçues, on se rend compte que c'est finalement pas mal pratiqué par les populations qui ne sont pas les plus riches. Et j'ai noté quelques chiffres qui sont sortis de cette enquête. Félicia nous dit que les familles sont majoritairement affiliées à la CAF et que presque la moitié ont un quotient familial inférieur à 1000. Donc voilà, on se rend compte que c'est quand même adapté au milieu modeste. Et parfois, on a des exemples, nous, dans notre entourage et dans le collectif. C'est même un choix de vie. On accepte volontairement de réduire son niveau de vie, ses revenus, etc., pour libérer du temps, qui n'est pas générateur d'argent, pour s'occuper de ses enfants.
Mais c'est quand même des familles qui ont, au-delà de ce capital financier, disposent d'un capital culturel et social.
C'est pareil, il y a dans les chiffres de Félicia, il y a effectivement 63% des parents qui sont diplômés dans un cursus universitaire. Il y a d'ailleurs 30% des parents qui ont déjà exercé un emploi dans le domaine de l'enfance. Il n'empêche qu'il y a aussi un certain nombre de parents qui ne sont pas diplômés, et ceux-là, ou au-delà du brevet des collèges, disons, et ceux-là, en fait, ils pratiquent malgré tout l'instruction en famille, parce qu'ils savent où aller trouver les ressources. À partir du moment où c'est vraiment un choix construit, conscient, qui est longuement réfléchi, et ce n'est pas une histoire de diplôme, mais vraiment une histoire de capacité à aller chercher les ressources dont ils ont besoin. Il y a aussi le CNED, il y a plein de supports pour aider les parents et les enfants. Il y a aussi d'autres adultes autour, il y a même des enseignants. Certains parents font appel à des enseignants à la retraite ou pas pour instruire leurs enfants. Donc il y a vraiment une grosse idée reçue sur le fait que l'instruction en famille serait truc de riche ou de privilégié. En réalité, finalement, ça l'est probablement moins que les écoles alternatives. C'est-à-dire que c'est un moyen pour beaucoup de familles d'expérimenter d'autres approches éducatives sans avoir à débourser des sommes souvent importantes, à de rares exceptions près, pour des écoles Montessori ou des écoles démocratiques, etc.
Oui, moi, je pense qu'effectivement, mon expérience, c'est que c'est plus égalitaire que les écoles alternatives, voire que l'école publique. Donc, c'était démontré un certain nombre de problèmes vis-à-vis de l'égalité. Cela dit, je n'ai pas envie complètement d'éluder la question. Marianne explique bien à quel point est-ce que ça pourrait être accessible à plein de familles.
Je ne dis pas que c'est accessible à tous.
J'aime bien mettre les pieds dans le plat. Nous, on est conscients que toutes les familles ne pourraient pas, soit à cause de leur métier, parce qu'elles sont attachées à quelque chose. Alors, on peut tout le quitter. En tout cas, ça ne coûte pas pareil à tout le monde. Mmh. Soit simplement, et tu parlais tout à l'heure de capital culturel, il y a des familles à qui ils n'ont pas les moyens d'y penser. Simplement. Ne serait-ce que d'imaginer le verre, de savoir que ça existe, ou de se sentir capable, parce qu'il y a un problème de confiance, et on revient au témoignage du début de l'émission.
Parce que l'école.
Et ouais, c'est ça. Donc moi, je comprends que certaines familles ne sont pas forcément en capacité, ne serait-ce que d'y penser ou de le mettre en place. Très bien. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait sociétalement ? Aller voir la mer, c'est un droit. Il y a plein d'enfants qui n'ont jamais été voir la mer. Ils n'ont pas les moyens. Leurs familles n'ont pas la possibilité. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on interdit à tout le monde d'aller voir la mer ou est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde puisse y aller ? Notre position, elle est claire. Elle est l'instruction de famille. Aujourd'hui, on se bat pour que ça reste une liberté. Mais dans la foulée, par principe de liberté éducative, de liberté d'instruire, nous, on pense qu'il faudrait que toutes les familles puissent le faire. On pourrait pousser le raisonnement et dire que du coup, même, on pourrait demander d'être rémunéré pour ça.
On pourrait aussi demander à ce que l'école offre des conditions qui n'invite pas les parents ou les enfants à vouloir sortir de l'école, c'est-à-dire des classes avec des effectifs réduits, des classes dont le rythme s'adapte à celui des enfants et de leur rythme d'apprentissage, une école aussi sans évaluation, puisqu'on a parlé un peu de toutes ces difficultés et de toutes ces pressions que l'école fait peser sur les enfants.
Et j'allais y venir, parce que la liberté d'instruction, elle concerne autant l'IEF que l'école. Nous, on veut que les enseignants puissent avoir une liberté aussi d'expérimenter un certain nombre de choses. Donc, ça va complètement avec. L'école qu'on pourrait imaginer, c'est aussi une école qui permettrait ça. On a 63% des familles qui pratiquent l'instruction en famille qui disent, moi, si à l'école, je retrouvais du Montessori, du Steiner ou autre, en fait, mes enfants, je les mettrais à l'école.
Et on peut ajouter qu'il y a beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui essaient de pratiquer d'autres méthodes éducatives, notamment une pédagogie freinée, et qui subissent une répression. On a eu pas mal de cas l'année dernière, notamment dans une école de Bobigny.
C'est ça.
Peut-être qu'on va considérer que le sujet est très vaste et qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mmh. Je vous remercie beaucoup, Marianne et Jalil, pour votre participation, votre réflexion sur l'école, votre partage de vos expériences. On adresse un grand merci à Arnaud qui a assuré la technique de cette émission. Et puis, on vous souhaite bon courage pour tous les combats que vous avez à mener.
Merci beaucoup.
Merci.
1 million d'enfants, le chiffre paraît astronomique. 1 million d'enfants dans notre bonne république. Déjà hors jeu, déjà exclus, avant même d'y être rentrés. Déjà paumés, déjà perdus, avant de savoir où aller. 1 million d'enfants en France sous le seuil de pauvreté, qui crèvent d'indifférence, ça peut faire des révoltés. Le ministre a bien raison de repérer les rebelles, de prendre des précautions dès 3 ans en maternelle. Un million d'enfants tous remisés dans leur misère. 1 million d'enfants traînant une vie délétère. Pour qui la vie, ça se mérite. Pour qui la vie doit se payer. Les parasés, les parasites que l'on dit la lie de la société. Tout ce qui hante un faciès acariâtre ou agressif. Ceux qui refusent les caresses et les trouvent vindicatifs. Le ministre a ses raisons. Faut rendre tout ça docile pour enrichir les patrons. Faut de la main d'œuvre flexible. Alors flic tout ça vos fiches. Fichez ces fichus fauchés. Pour permettre aux fils de riches de pouvoir dormir en paix. Quelle sinistre solution pour ces bambins qu'on dit bandits des 6 ans. Qu'on ne peut pas mettre en prison. Gavons les deux tranquillisants. Un million d'enfants.
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 Un million d'enfants, le chiffre paraît astronomique.
Un million d'enfants dans notre bonne république. Déjà hors jeu, déjà exclus, avant même d'y être rentré. Déjà paumé, déjà perdu, avant de savoir où aller.
Laissé pour compte.
Comptant pour rien.
Dans les calculs économiques.
Quel est le poids
de leur destin
face à l'intérêt stratégique de la France d'après-demain.